Voice of Indonesia.
Bonsoir, chers auditeurs, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes, le journal, le commentaire et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, Mon Indonésie, le magazine culturel, Apprendre l'Indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Le Cuba remercie le gouvernement indonésien pour son soutien visant à mettre fin aux sanctions économiques prises par les États-Unis contre le Cuba. Tant d'opportunités de coopération commerciale entre l'Indonésie et Cuba. La promotion du tourisme en Indonésie a beaucoup de succès en Norvège. Le gouvernement local continue le processus afin de réaliser le géoparc national. Le ministère de l'Énergie et des Ressources humaines a appelé le Moyen-Orient la cible du partenariat. INACA réduit les tarifs de billets d'avion. Les forêts côtières peuvent réduire les risques de tsunami. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Les relations bilatérales entre l'Indonésie et Cuba sont établies depuis 59 ans. Ces relations bilatérales ont été renforcées par la visite du président Sukarno à Cuba en 1960, suivie d'une visite du président Abdurrahman Wahid en 2000 et du président Susilo Bambang Yudhoyono en 2006. Les deux pays ont également participé activement dans l'organisation du mouvement des non-alignés et de J77. En ce qui concerne l'extension de l'embargo imposé par les États-Unis au Cuba depuis 1960, le gouvernement cubain a exprimé sa gratitude au gouvernement indonésien pour son soutien permanent à la résolution visant à mettre fin à l'embargo américain sur le Cuba. C'est ce qu'a affirmé l'ambassadrice de Cuba en Indonésie, Nircia Castro Guevara, lors de son discours à l'occasion du 60e anniversaire de la Révolution cubaine à Jakarta récemment. À cette occasion, je voudrais exprimer ma gratitude au gouvernement indonésien pour son soutien permanent à la résolution intitulée Nécessité de mettre fin à l'embargo économique, commercial et financier imposé à Cuba par les États-Unis. En ce qui concerne la coopération entre les deux pays dans le domaine économique, l'ambassadrice Nircia a reconnu, même s'il y a eu maintenant une coopération dans le domaine du sport et du secteur de la santé publique, les deux pays ne l'ont pas utilisé au maximum. Toutefois, les deux pays souhaitent toujours renforcer la coopération. La valeur commerciale de l'Indonésie et du Cuba pendant janvier et octobre 2018 a atteint plus de 13 millions de dollars américains. Les deux pays doivent avoir beaucoup bénéficié des relations commerciales. C'est ce qu'a déclaré le ministre indonésien de la main-d'œuvre, Muhammad Hanif Dahiri, lors de son discours représentant le gouvernement indonésien à l'occasion du 60e anniversaire de la Révolution cubaine à Jakarta récemment. Le ministre Dahiri espère que la coopération pourra encore être améliorée parce que les relations commerciales offrent encore de nombreuses opportunités. En termes de commerce, l'Indonésie et le Cuba ont réussi à atteindre plus de 13 millions de dollars américains pendant janvier et octobre 2018. Il existe encore de nombreuses possibilités qui peuvent être explorées plus profondément pour intensifier nos relations économiques. À cette occasion, M. Hanif Dahiri, ministre indonésien de la main-d'œuvre, a déclaré que l'Indonésie continuerait d'appuyer la résolution des Nations Unies pour la nécessité de mettre fin aux embargos économiques, commerciaux et financiers imposés à Cuba par les États-Unis. L'Indonésie comprend que la société cubaine est certainement très touchée socialement et économiquement par l'embargo. Le gouvernement indonésien estime que l'embargo n'est pas conforme au droit international, aux droits de l'homme, à la Charte des Nations Unies et à l'esprit du programme 2030. Pour cette raison, le gouvernement indonésien souligne la nécessité de dialoguer pour mettre fin à l'embargo et soutenir les efforts visant à normaliser les relations américano-cubaines. La promotion touristique de l'ambassade d'Indonésie à Oslo lors de plus grandes expositions touristiques organisées au Telenor Arena à Oslo en Norvège du 11 au 13 janvier était très réussie. Cela évoque de nombreux de commandes de voyages organisées en Indonésie. Monsieur Todung Mulya Lubis, ambassadeur indonésien en Norvège et en Islande, en mars de l'ouverture de l'ambassade d'Indonésie à Oslo, a déclaré que la participation de l'Indonésie à l'une des plus grandes expositions touristiques de la région nordique faisait partie de la diplomatie économique et des efforts durables pour que l'Indonésie existe un jour dans la principale destination touristique pour les Norvégiens. Nina Evayanti, la responsable de l'ambassade d'Indonésie à Oslo, a déclaré lundi à Antara Londres que l'ambassade d'Indonésie à Oslo avait coopéré avec un agent de voyage basé à Oslo pour renseigner et diffuser des informations touristiques en Indonésie telles que Raja Ampat, l'île de Komodo, le lac de Toba et le temple de Borobudur. La région de Pandeglang, Madame Irma Narulita, s'assure que les efforts du gouvernement régional pour concevoir le district de Pandeglang sont devenus l'un des géoparcs nationaux d'Indonésie n'est pas entravé par le tsunami qui a frappé récemment. Elle a déclaré samedi à Tanjung Lesung, Banten, que l'existence du géoparc national dans le district de Pandeglang encouragerait le développement économique régional par le secteur du tourisme et également le développement des connaissances pour la communauté. Madame Irma Narulita souhaite que le gouvernement central puisse soutenir le développement du potentiel touristique de Pandeglang. Le potentiel touristique peut être exploité non seulement par les touristes locaux, mais aussi par l'international. Elle espère également que la région de Pandeglang pourra devenir l'une des zones économiques spéciales. Cette région possède également le potentiel pour stimuler l'économie indonésienne. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie, diffusé depuis Jakarta. Surya Ningsih, directrice de développement du programme pétrolier et gazier, a proposé un plan visant à élargir les possibilités d'investissement pour le pétrole et le gaz en amont dans la région de Moyen-Orient. Comme cité par Antara, Surya Ningsih a affirmé à Jakarta ce qui sera mis en œuvre cette année et d'intensifier la coopération avec l'Irak et l'Azerbaïdjan. En ce qui concerne l'Azerbaïdjan, l'Indonésie a eu la possibilité d'explorer le champ de pétrole et de gaz et d'importer du pétrole brut. L'Irak est également le principal objectif de la coopération dans le domaine de l'industrie pétrochimique, le développement de raffineries et l'exploration pétrolière et gazière dans le pays par l'intermédiaire de PT Pertamina. Néanmoins, selon Surya Ningsih, le partenariat entre les deux pays reste une négociation. Ceci sera discuté lors d'une réunion bilatérale entre les deux pays. Toutes les compagnies aériennes nationales qui sont membres de l'Association des compagnies d'aviation indonésiennes, ou INAKA, ont réduit les tarifs des billets d'avion depuis le vendredi 11 janvier sur plusieurs itinéraires aériens, tels que Jakarta-Denpasar, Jakarta-Yogyakarta, Jakarta-Surabaya, Bandung-Denpasar et sera suivi par un autre service de vol intérieur. Le président de INAKA, M. Ari Askara, a déclaré à Jakarta dimanche que cela était dû aux préoccupations de la communauté sur le prix élevé des billets et l'engagement positif à réduire les coûts des rapports et de navigation des parties prenantes, tels que PT Angkasa Pura, PT Angkasa Pura 2 et Airnav et aussi Pertamina. Il a ajouté qu'en adaptant la structure de coûts de service de vol, notamment dans les aspects qui soutiennent les services aéroportuaires et les coûts de navigation, les compagnies aériennes pourraient ajuster la structure de coûts opérationnels de services de vol afin de réduire les tarifs des billets d'avion. Ari Askara a souhaité que l'accès public aux services de transport aérien puisse être plus largement ouvert. La forêt côtière est l'un des efforts d'atténuation visant à réduire le risque de tsunami à l'avenir. Le général TNI Donny Monardo, le chef de l'Agence nationale pour la gestion des catastrophes, ou BPPB, a souligné que les avantages des forêts côtières pour la communauté côtière, qui font partie de la zone rouge de risque sismique et tsunami. Donny Monardo, lors de sa visite à la place de Binungan, Pandeglang et Banten samedi, a déclaré plusieurs types d'arbres qui pouvaient fonctionner comme une barrière naturelle de tsunami, entre autres acajou, banyan et cocotier. Il a invité la communauté à réduire le désastre en plantant des arbres afin que la communauté puisse être protégée et que les victimes soient aussi minimes que possible. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Voice of Indonesia. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé La terreur et l'intimidation ne réduisent pas l'éradication de la corruption. Mercredi 9 janvier de la semaine dernière, M. Agus Raharjo et Laude M. Sharif, deux responsables de la Commission pour l'éradication de la corruption, ou KPK, ont été terrorisés par une bombe. La maison du président de KPA, M. Agus, qui se trouvait dans la ville de Bekasi, a été terrorisée sous la forme d'un objet ressemblant à une bombe paralon accrochée à la clôture. Et la maison du vice-président de KPA, M. Laude, au sud de Jakarta, a été terrorisée par deux cocktails Molotov. Après avoir reçu des nouvelles de la terreur qui ont frappé les responsables de la Commission pour l'éradication de la corruption, le président Joko Widodo a immédiatement demandé au chef de la police, M. Tito Karnavian, de mener une enquête approfondie. Selon le président, l'incident était une forme d'intimidation aux autorités d'application de la loi, donc il n'y a pas de tolérance pour cela. Le président croit que l'éradication de la corruption ne sera jamais arrêtée par des actes de terreur. Il n'est pas la première terreur dirigée contre les membres de KPK. Auparavant, le 11 avril 2017, l'enquêteur de KPK, M. Novel Baswedan, avait été agressé par un inconnu en lui éclaboussant l'eau dure sur son visage. Jusqu'à présent, ce cas n'est pas encore terminé. Le 8 janvier 2019, le chef de la police nationale indonésienne, le général Tito Karnavian, a créé l'équipe enquêteuse commune pour le cas de Novel Baswedan, composée d'éléments de la police nationale, la Commission pour l'éradication de la corruption et des experts dans leur domaine. Il y a la question sur l'efficacité de la formation de cette équipe pour arrêter les auteurs de l'attaque. Ce problème dure plus d'un an et n'est pas encore résolu. On a besoin de sérieux des autorités de résoudre le problème qui touche ceux qui travaillent de lutter contre la corruption parce que la corruption est un crime extraordinaire. On espère que les efforts de la police de coopérer avec d'autres organismes chargés de l'application de la loi vont réussir immédiatement. La terreur à laquelle est confrontée la Commission d'élimination de la corruption ne devrait pas diminuer leur attention d'éradiquer la corruption dans ce pays. Chers amis, c'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Voice of Indonesia. Vous écoutez la voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 14 janvier 1907, tremblement de terre à Kingston, Jamaïque. Le séisme a secoué la capitale insulaire de la Jamaïque, Kingston, de 6,5 sur l'échelle de Richter le 14 janvier 1907. Le séisme a provoqué environ 1000 morts et environ 10 000 personnes sans abri et des dégâts matériels. Peu de temps après, un tsunami a attaqué la côte nord de Jamaïque, dont la hauteur de vague est environ 2 mètres. Cette catastrophe est l'un des tremblements de terre les plus meurtriers du monde enregistrés dans l'histoire. Le 14 janvier 1943, conférence de Casablanca sur la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cette conférence était la première conférence de guerre entre pays alliés qui a commencé à Casablanca au Maroc. Le but de cette conférence était de déterminer la stratégie des forces alliées et la manière de terminer la Seconde Guerre mondiale. En outre, on a aussi discuté les plans d'une attaque alliée contre la Sicile, l'Italie et des bombardements américains contre des pays de l'Axe, notamment le Japon, l'Allemagne et l'Italie. Au début, trois dirigeants des grands pays avaient prévu de participer à cette conférence. Ils sont Roosevelt des États-Unis, Churchill de l'Angleterre et Staline de Russie. Mais Staline a refusé d'y assister parce que son pays était menacé par des attaques nazies et des hivers rigoureux. Lors de cette conférence, une déclaration commune a été produite selon laquelle la guerre ne se terminerait que par une capitulation sans condition des pays de l'Axe. Le 14 janvier 2016, terreur à la bombe à Jakarta. Le 14 janvier 2016, il y a eu un attentat à la bombe terroriste et des tirs autour de Plaza Sarinah, Jakarta Central, Jakarta, Indonésie. L'explosion s'est produite à deux endroits, tels que le parking de la tour de Cakrawala, le bâtiment au nord de Sarinah et un poste de police devant le bâtiment. Quatre assaillants et quatre civils ont été tués et 24 autres ont été blessés à cause de l'attaque. Cette personne, accusée en tant qu'assaillant, et l'organisation de l'ISIS a revendiqué la responsabilité en tant qu'auteur d'attaque. C'était l'histoire d'aujourd'hui de la voix de l'Indonésie à Jakarta.
Chers auditeurs, c'était la chanson intitulée de Nganafasmu, chantée par le groupe musical Samson. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde. Et voici donc mon Indonésie intitulée L'Indonésie et Singapour ont inauguré l'école polytechnique de l'industrie de meubles de Kendal. Chers auditeurs, voici donc mon Indonésie et pour le titre L'Indonésie et Singapour ont inauguré l'école polytechnique de l'industrie du meuble. Le ministre de l'Industrie, Airlangga Hartarto, et le ministre de l'Enseignement supérieur et des compétences de la République de Singapour, Ong Ye Kung, ont inauguré l'école polytechnique de l'industrie du meuble et de la transformation du bois dans la zone industrielle de Kendal, Java Central, jeudi. L'existence de l'école polytechnique de l'industrie du meuble dans la zone industrielle de Kendal est de répondre aux besoins de la main-d'œuvre industrielle. Ainsi, la productivité augmente et l'industrie du meuble devient plus compétitive. Le ministre indonésien de l'industrie, Airlangga Hartarto, a déclaré dans son discours d'ouverture que l'existence de la polytechnique de l'industrie du meuble et de la transformation du bois devait pouvoir répondre aux défis du développement industriel et des tendances du marché du meuble. Selon lui, le marché du meuble connaît actuellement un changement de l'achat initial de produits finis au magasin à déplacer à la commande de certains modèles. C'est parce que l'industrie du meuble est un secteur basé sur le style de vie. Cela signifie que pour pouvoir être compétitif, il faut innover dans la conception des produits conformément aux dernières tendances du marché. L'organisation de l'enseignement à l'école polytechnique de l'industrie du meuble et la transformation du bois, à la fois le programme scolaire et les installations pratiques, sont préparées à produire des ressources humaines conformes aux besoins industriels actuels. Selon Airlangga Hartarto, le gouvernement cible une augmentation des exportations nationales de meubles de 5 milliards de dollars américains au cours des deux prochaines années. Selon lui, l'industrie du meuble est l'un des secteurs stratégiques de soutien de l'économie nationale car elle est à forte intensité de main-d'œuvre et axée sur les exportations. Pendant ce temps, le ministre singapourien de l'enseignement supérieur et des compétences, Ong Ye Kung, a déclaré que Singapour et l'Indonésie jouissent des relations étroites à tous les niveaux, tant au niveau gouvernemental qu'institutionnel et communautaire. Une large coopération peut créer des opportunités mutuellement bénéfiques dans de nombreux domaines. Il est également heureux de fournir un appui au développement potentiel des programmes d'enseignement de la zone industrielle de Kendal en favorisant la coopération entre les établissements d'enseignement des deux pays. Dans une autre partie, Haris Munandar, secrétaire général du ministère de l'Industrie, a expliqué que Polytechnique de l'industrie du meuble et de la transformation du bois a commencé l'opération d'éducation de première génération depuis le 1er octobre 2018. Il existe trois programmes d'études, à savoir ingénierie de production de meubles, la conception de meubles et la gestion commerciale de l'industrie du meuble. Le système d'apprentissage à l'Institut Polytechnique du meuble et de la transformation du bois a adopté un système à double concept développé en collaboration avec la Suisse, de sorte que les diplômes sont vraiment en accord avec les besoins d'industrie et deviennent ensuite un exemple pour le développement de la formation professionnelle en Indonésie. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
Voice of Indonesia.
Bagaikan sudah.
Indonesia.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson intitulée Satu Mimpi, chantée par The Groove. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bon, chers auditeurs, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique Magazine culturel. Et cette fois, nous vous invitons à voyager la province de l'ouest de Sumatra et goûter une cuisine typique de cette région. Donc, restez toujours avec nous à la voix de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission via www.voinews.id. Ou bien par l'encour. Maninjau est l'un des lacs de l'ouest de Sumatra formé par l'éruption du mont Sitinjau. Sa profondeur de 495 mètres avec une hauteur de 461,5 mètres et une superficie environ 99,5 km² renforce son nom en tant que deuxième plus grand lac de l'ouest de Sumatra. L'emplacement est situé dans le district de Tanjung Raya, la région Sdagam, à environ 40 km au nord de ville de Padang, la capitale de l'ouest de Sumatra. Ce lac possède des beaux paysages. Il est devenu l'un des sites touristiques préférés de la province de l'ouest de Sumatra. Vous pourrez profiter d'une variété d'activités de vacances, telles que la pêche, l'observation de fermes piscicoles, des eaux douces et profiter de la beauté du lac de Maninjau en bateau. En outre, vous pouvez également faire le tour du lac en vélo, en profitant de la beauté du lac depuis le plus haut sommet, appelé le sommet Lawang ou le Puncak Lawang. Là-bas, vous pouvez également profiter d'une variété culinaire typique de cette région. Voyager au lac de Maninjau, n'oubliez pas de goûter la cuisine typique, entre autres palai rinua. Dans la langue locale, palai signifie le pepes. Le pepes est une façon de traiter la nourriture, généralement pour les poissons, avec la marinade enveloppée dans des feuilles de bananier. Rinua est un poisson endémique typique du lac de Maninjau. Le poisson est jaunâtre comme une allumette d'une longueur environ de 2 cm. Riz noir peut être transformé en différents types de cuisine comme riz noir frites, riz noir gulai, mais le plus célèbre est transformé en palai riz noir ou le pepes riz noir. Pour cuisiner le palais rinois, les poissons rinois sont mélangés avec la noix de coco râpée épicée, comme le curcuma, le piment, l'oignon, et ensuite enveloppés dans des feuilles de bananier. Et ensuite, ils sont brûlés. Il a un goût si délicieux et savoureux. Cette cuisine est si délicieuse, mangée avec du riz chaud. Elle peut facilement être trouvée dans les stands de nourriture le long du lac de Maninjau. Le prix est relativement bon marché, environ 3000 rupiah jusqu'à 5000 rupiah par paquet. Palai rinua et riz en avantage. Le poisson rinois fait partie de la famille des anchois. Le poisson d'anchois est l'un des bons aliments pour les diabétiques parce que ce poisson est une source de protéines à faible teneur en graisse saturée et ne contient pas de glucides. Parce qu'il est faible en graisse saturée et ne contient pas de glucides, le poisson d'anchois n'affectera pas le niveau de sucre dans le sang des diabétiques. Une teneur élevée en calcium rend ce type de poisson très efficace pour prévenir la perte de l'ostéoporose. Chers amis, c'était le magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Merci à tous et à demain.
Voice of Indonesia.
Di angkasa malam, biarkan matamu menang.
Chers auditeurs, c'était la chanson de Titi DJ intitulée Bintang Bintang. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde. Pour la rubrique suivante, voici donc Apprendre l'Indonésien.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous, nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique Apprendre l'Indonésien, un programme qui introduit le vocabulaire de la langue indonésienne et vous guide de parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre la Voix d'Indonésie avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République d'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est « Asal Anda dari mana ?» ou en langue française, d'où venez-vous? Ensuite, je vais donner un exemple de conversation ayant pour titre Asal Anda dari mana? Ou en langue française, d'où venez-vous? Comme d'habitude, je vais prononcer lentement phrase par phrase deux fois. Vous pouvez répéter après moi. C'est une conversation entre Tony qui est en provenance du Royaume-Uni et Sinta qui s'assoit à côté de Tony. Ils sont dans la cabine de l'avion sur le chemin vers Yogyakarta.
Asal Anda dari mana?
Saya dari Jakarta. Kalau Anda, dari mana?
Saya dari London.
Oh, Anda orang Inggris?
Iya, benar.
Chers auditeurs, après avoir écouté cette conversation, je vais introduire le vocabulaire et les expressions reliant au thème d'aujourd'hui. Je vais prononcer deux fois et vous pouvez répéter après moi. Asal Anda dari mana? Asal Anda dari mana? En français, d'où venez-vous? Orang Inggris. Orang Inggris. En français, anglais. Saya orang Inggris. Saya orang Inggris. En français, je suis anglais. Asal saya dari Indonesia. Asal saya dari Indonesia. En français, je viens de l'Indonésie. Orang Indonesia. Orang Indonesia. En français, indonésien. Orang Jepang. Orang Jepang. En français, japonais. Orang Mesir. Orang Mesir. En français, égyptien. Suku Jawa. Suku Jawa. En français, javanais. Pour demander l'origine de quelqu'un, vous pouvez dire Asal Anda dari mana? Ou Dari mana asal Anda? Le mot dari mana est utilisé pour demander l'origine de quelqu'un ou de quelque chose. Si quelqu'un vous demande d'où venez-vous, vous pouvez dire Saya dari. Suivi d'un nom de ville ou de pays. Par exemple, saya dari Jogja, qui signifie je viens de Jogja. Saya dari London, qui signifie je viens de Londres. Saya dari Indonesia, qui signifie je viens de l'Indonésie. Le pays d'origine est souvent associé à la citoyenneté. Dans le dialogue, Sinta a conclu que Tony était anglais. En indonésien, utilisez le mot orang. Orang, qui signifie personne, suivi du nom du pays pour mentionner la citoyenneté. Par exemple, orang Inggris. Orang Inggris, qui signifie anglais. Orang Indonesia. Orang Indonesia, qui signifie indonésien. Orang Jepang. Orang Jepang, qui signifie japonais. Orang Mesir. Orang Mesir, qui signifie égyptien. En plus du pays, vous pouvez également ajouter des noms de villes ou d'ethnies après le mot personne pour indiquer une ville ou un groupe ethnique. Par exemple, Sinta berasal dari Jogja. En français, Sinta vient de Jogja. Signifie que Sinta est une personne de Jogja. Sinta berasal dari suku Jawa. Sinta berasal dari suku Jawa. En français, Sinta provient de la tribu javanaise. Ici, cela signifie que Sinta adalah orang Jawa. Sinta adalah orang Jawa. En français, Sinta est un javanais. Chers auditeurs, avant de terminer à parler dans l'indonésien aujourd'hui, pour plus de détails, écoutons encore une fois l'exemple de la conversation.
Asal Anda dari mana?
Saya dari Jakarta. Kalau Anda, dari mana?
Saya dari London.
Oh, Anda orang Inggris?
Iya, benar.
Chers amis, c'était la rubrique apprendre de l'indonésien pour ce soir. Que cette rubrique soit utile pour vous qui voulez connaître davantage la langue indonésienne. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Lapisan tipis air yang beku sentuhan lembut kan hancurkan aku walaupun cinta yang sempurna menghampiriku seketika ku ingin kau tahu betapa rapuhnya
Segrito setelah sangsong ang ditulis rapuh siang tepar ini ulan dari. Vuzet tujuh avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33.25 kHz et sur le site web www.voice.id. Bon, Segrito, nous continuons notre programme avec les informations musicales.
Voice of Indonesia.
Bonsoir, chers auditeurs, Voice of Indonesia de l'Indonésie pour tout le monde. On se retrouve encore dans l'émission magazine musical. Et cette édition va vous présenter les informations et la chanson de Mamik Marsudi. Chers auditeurs, Mamik Marsudi, ou Prasito Resmi, est une chanteuse qui a une voix mélodieuse et séduisante. Bien qu'elle soit également dans le monde du chant, elle est en réalité mieux connue en tant que danseur. Grâce à ses talents de danseur et chanteur de croncheon, elle visite aux différents pays comme l'ambassadeur dans des missions culturelles. Son intérêt pour la musique croncheon est commencé par Marsudi, son mari qui a apporté des cadeaux de cassettes croncheon du directeur de la plateforme de Java Central Taman Mini Indonesia Indah en 1983. Elle aimait l'une de ses chansons intitulée « Une fleur ». Avec cette chanson, elle a commencé à suivre le concours de chansons croncheon et a gagné. Après cela, elle rejoint à l'orchestre croncheon qui l'accompagnait pendant le concours. Depuis cela, son talent a grandi. Chers auditeurs, je vous présente la chanson de Mamik Marsudi intitulée « Langgam Kerinduan ». Bonne écoute.
Menunggu tiada jua.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voinews.id. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.